Merci. Alors, je pense que je vais dire des choses différentes, comme on est entre nous, on peut improviser un peu, hein, on n'est pas tenu par les contraintes. Donc je vais peut-être dire des choses différentes de ce que j'avais prévu, parce que ce que vous dites m'évoque un certain nombre de choses sur lesquelles je crois qu'il faut revenir. Alors, première chose sur laquelle je veux revenir, c'est sur l'histoire que vous avez dépliée, mais qui, à mon avis, demande à être reproblématisée pour que, justement, on comprenne quel cheminement intellectuel et quel cheminement problématique un certain nombre de gens ont fait pour se poser les questions que vous avez posées. Parce qu'à mon avis, justement, c'est ce qui donne d'abord une dimension un peu vivante à la recherche, et puis qui en même temps montre un peu comment, où on va et d'où on part et où on va, parce que c'est des choses qui sont un peu fluctuantes et un peu enracinées dans des débats. Alors, on a commencé, je dis on parce que j'y étais, on a commencé à travailler sur Belzunce dans les années 80, très précisément dans les années 85-86, si ma mémoire ne flanche pas. C'était pas une équipe, mais on était trois ou quatre, dont évidemment Darius, qui était un peu le patron de cette affaire. Et alors, c'est intéressant de voir comment se posait à ce moment-là le débat sur les questions de migration et sur la manière dont on a, entre guillemets, découvert Belzunce. Moi, j'ai travaillé dans les cités, effectivement, je faisais partie d'une équipe qui travaillait sur la réhabilitation, participation des habitants, etc., dans un certain nombre de cités de Marseille. On était en train de monter des régies de quartier et tout. On était dans une grosse problématique qui était une problématique qu'on peut placer sous le sigle de l'intégration. C'est-à-dire que la grande question, c'était l'intégration, la seconde génération, le statut stigmatisé, déqualifié de la migration, et cette sorte de situation. Je pense par exemple, bon, si on peut donner quelques références, je pense au gros boulot de Schnapper, par exemple, qui n'est pas sorti à ce moment-là, qui est sorti plus tard, mais qui pose assez bien la manière dont on envisageait les choses. Donc l'émigration ne pouvait être vue que sous l'angle de ce double questionnement, qui était d'une part la question de l'intégration de la seconde génération, et donc dans une perspective qui était aussi tous les travaux de Castel sur... Castel le dit d'une façon très brutale, mais je pense très vraie, il dit un certain nombre de... L'évolution même de la mondialisation d'un certain nombre du marché du travail produit des inutiles au monde. Et donc il y avait une grande question sur l'utilité au monde ou l'inutilité au monde d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, toutes ces questions sont reprises de manière, à mon avis, magistrale par le dernier bouquin de Saskia Sassen, qui s'appelle « Expulsion », et qui va encore plus loin en disant « Notre monde moderne expulse des pans entiers de population qu'il expulse ». Alors, il les expulse de quoi? Pas évidemment pas de la vie ou de la société, il les expulse de la possibilité même d'accéder au marché du travail et devenir un acteur économique. Donc, toutes ces questions-là étaient en germe quand on travaillait sur l'immigration, donc question de l'intégration et question de l'expulsion, pour le dire comme on le dirait aujourd'hui. Là-dessus arrive un petit bonhomme qui s'appelle Alain Darius, qui était à l'époque, c'est très important parce que les dimensions institutionnelles comptent aussi, qui était dans un centre de recherche qui s'appelait l'INRETS, l'Institut National de Recherche et d'Études des Transports, et l'ES, la sécurité. Voilà. Je regarde le camarade parce que nous fréquentions assidûment le plan urbain à cette époque, qui était notre officine qui travaillait sur ces choses-là. Donc arrive ce petit bonhomme et qui dit, moi, vos migrants dans les cités et tout, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Belzunce, c'est ce qui se passe à Belzunce, parce qu'à Belzunce, il y a un gros problème autour des taxis clandestins. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Ça ne se passe pas sur des grandes réflexions, des grandes constructions paradigmatiques, ça c'est vous qui le faites, mais ça ne se passait pas comme ça. C'est pas un reproche. C'est juste une manière de dire ce que c'est la recherche quand elle se fait, quoi. Donc il dit, moi ce qui m'intéresse c'est les taxis clandestins. Voilà. Donc on a commencé à discuter sur Belzunce, le statut de ce quartier, la complexité des choses, et donc, je résume un peu, mais tout d'un coup il y a une sorte de basculement du regard, et je pense même, ce que je vais essayer de vous dire, un basculement paradigmatique sur la vision de la migration, où tout d'un coup on s'est intéressé à un quartier dans lequel, alors, quasiment on pourrait reprendre chacun des termes sur l'intégration et les renverser, les remettre sur leurs pieds ou sur leur tête, peu importe, où on voit des migrants qui ne sont pas du tout des pauvres, mais qui sont des gens plutôt riches, ou en tout cas qu'ils le deviennent, et qu'ils le deviennent parfois très vite. Moi, j'avoue, aujourd'hui, à prescription, avoir été assez fasciné par la fulgurante ascension de quelqu'un qui s'appelait Nasser Saber, qui a été à un moment donné, alors pour ceux qui connaissent Marseille, Nasser Saber a été, à la fin des années 80, était propriétaire de la totalité des magasins qui étaient en façade sur le cours Belzunce, là où il y a l'Alhambra aujourd'hui. Il n'y avait pas un seul magasin qui ne lui appartenait pas, il avait tout acheté. En partant de, en quelques années, il vendait des vestes d'occasion, défraîchies, sur le bord du trottoir devant l'Alcazar. En quelques années, il est devenu le propriétaire de toute la façade. Et après, comme il le dit avec un peu d'humour, victime d'une ratonnade fiscale, il a plongé dans les abîmes de la réussite. Enfin, bref, voilà. Donc, moi, j'étais assez fasciné par ce genre de personnage qui manifestait des réussites fulgurantes, etc., et qui était donc tout le contraire de ce qu'on voyait dans les cités, la déshérence, le chômage, etc., qui étaient des entrepreneurs. Première figure, donc, assez singulière, celle de la réussite. Deuxième figure assez singulière, c'était celle du cosmopolitisme, puisque ce quartier, Belzunce, qui était le lieu de l'activité sur lequel on travaillait, était un lieu dans lequel il y avait, non seulement il y avait des étages économiques ethniquement différenciés, mais il y avait des systèmes de collaboration extrêmement actifs, extrêmement imbriqués, qui fonctionnaient très bien. Donc en gros, Tarius l'a très bien décrit, une pyramide dans laquelle vous aviez au sommet de la pyramide quelques grossistes fabricants qui étaient arméniens et juifs pour l'essentiel. Donc des juifs qui étaient arrivés en 58 à Marseille, qui étaient essentiellement des juifs marocains, qui étaient arrivés après l'indépendance du Maroc et qui avaient construit ce réseau de commerce de gros qui a fait notamment la rue, ce qui est aujourd'hui la rue du tapis vert, rue, il y avait Tubano, tapis vert, etc. Donc c'est deux ou trois rues qui étaient les rues du commerce de gros. Donc ça, c'était un premier étage. Si on raisonne un peu comme Braudel, c'était l'étage capitaliste de cette machine. Lesquels grossistes, arméniens et juifs, étaient aussi les banquiers de ce système, puisqu'ensuite, en dessous, vous aviez toute une nébuleuse de commerçants installés, établis, qui étaient algériens, tunisiens, pieds noirs, arméniens aussi, et qui étaient tous des commerçants, chacun ayant un petit créneau de spécialité qui lui permettait d'exister. Et ensuite, donc, toute une infrazone, une sorte de nébuleuse dans laquelle il y avait aussi bien les petits vendeurs de vestes d'occasion sur le trottoir que des petits réparateurs de voitures à la sauvette, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'était Belzunce à l'époque? C'était un énorme quartier commercial. Les quelques chiffres qu'on peut donner, vous les trouvez dans au moins le premier bouquin qu'a fait Tarius, je crois qu'il date de 92, je crois qu'il avait fait, qui s'appelait Arabe de France, qui était le premier bouquin qu'il avait fait, qui donnait quelques chiffres. On était entre 40 et 50 000 personnes qui débarquaient d'Algérie tous les week-ends et qui venaient consommer dans ce quartier. Alors consommer, ça veut dire aussi bien acheter l'essentiel des denrées alimentaires de première consommation. On voyait partir sur l'Algérie des voitures chargées de bananes, de kiwis, de yaourt, etc. C'était une époque où l'Algérie était un pays quasiment sans économie vivrière. Donc, si on redonne après d'autres chiffres, le Trabendo, qui était le nom qu'on donnait en Algérie de cette activité, représentait 90% de l'économie vivrière algérienne. Et je pense que 80% de ce 90% de l'économie vivrière passait par Belzunce et par les commerces de Belzunce. Voilà. Donc, ça donne une idée de la vibration et de l'effervescence qu'on pouvait trouver dans ce quartier. L'un des renversements paradigmatiques aussi, qui n'est pas des moindres, qu'on a opéré en s'intéressant à ces quartiers, c'est aussi en quelque sorte de regarder la migration, non pas d'ici, de nos sociétés d'accueil, puisqu'on parle de quartier d'accueil, etc., mais de le regarder au contraire, non pas de là-bas non plus, encore que, mais de les regarder précisément dans le mouvement et dans la circulation entre le ici et le là-bas. Bon. C'est devenu aujourd'hui, avec Portes et d'autres, c'est devenu aujourd'hui une perspective. Moi, j'aime pas trop le terme de transnational parce que je le trouve très peu descriptif, mais bon, c'est aujourd'hui devenu le lieu du débat sur le transnational. À l'époque, c'était absolument impossible d'imaginer. Je vous rappelle que celui qui dominait la pensée sur la migration à l'époque était Sayad, que Sayad parlait de double absence, et que donc la possibilité même de penser que les migrants étaient quelque part dans une sorte de double présence ou d'ancrage multiple à l'intérieur de leur espace-temps était quelque chose de littéralement impensable pour l'époque. Voilà. Donc on a pensé tout ça. Alors quand je dis qu'on a pensé tout ça, c'est pas du tout parce qu'on était plus intelligent que les autres plus intelligent que les autres, c'est simplement parce qu'on était ancré, encore une fois, dans une sorte d'ethnographie descriptive minutieuse de ce qu'était la formidable complexité de ce quartier et où on tirait chaque fois des... Moi, j'ai une image qui me vient, alors je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais il y a un auteur napolitain qui dit si vous commencez à tirer sur les ficelles qui servent à faire sécher le linge à Naples, vous allez tirer le linge, et puis vous allez tirer les femmes qui auront mis le linge à sécher, parce que probablement c'était des femmes, hein, je suis désolé. Mais... Donc, et puis ensuite vous allez tirer les meubles, etc., et vous allez tirer tout Naples avec cette ficelle. Et c'est un peu ce qu'on faisait sur Belgium, c'est-à-dire qu'on tirait sur une ficelle, qui était donc les relations commerciales engagées dans Belgium, et on tirait petit à petit comme ça des fils, qui nous amenait en Algérie, etc., qui après nous amenait beaucoup plus loin, voilà. Donc, je dis ça pour dire que c'est pas du tout parce qu'on a pensé qu'il fallait être dans une position de sociologie critique sur la migration, sur le paradigme intégratif, etc., qu'on a travaillé tout ça. C'était plus dans une position très école de Chicago, très descriptive, ethnographique, qu'on a commencé à tirer une série de liens. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé en gros trois choses, pour le dire très vite. Première chose qui s'est passée, c'est que c'est là où, notamment, on a un petit différent avec Tarius, je le dis vite, mais en gros, Tarius continue de penser que Marseille est une place stratégique dans un certain nombre de commerces et d'activités. Moi, je pense que Marseille a été effacée de la carte et de la géopolitique de ces places marchandes et de ces commerces. Bon, c'est un débat, voilà, il faudrait qu'un jour, autour d'une bouteille de vin blanc, on règle ce problème, je dirais, mais bon, pour l'instant, on ne l'a toujours pas fait. Enfin, blanc ou rouge, d'ailleurs, parce que c'est... Voilà, rien ne bouge. Bref, donc voilà, ça c'est un débat, je le dis sans plaisanter, je pense que c'est effectivement un débat de comprendre aujourd'hui quelle est la place de Marseille dans cette nébuleuse formidablement complexe des réseaux commerciaux, je dirai deux mots après, voilà. Ça, c'est le premier élément. Moi, il me semble que à partir des années 88, pourquoi 88, c'est très précis, c'est l'instauration des visas, c'est Schengen, et qui a donc mis ce quartier dans une situation difficile, puisque une des conditions commerciales de la vibration de ce quartier était liée à la possibilité qu'avaient les Algériens d'y venir librement. Deuxième chose, c'est la guerre en Algérie, c'est pas rien non plus. Donc le démarrage de la guerre civile, 88, 92, etc., où on voit un certain nombre de chaises musicales, c'est-à-dire des Tunisiens prendre la place des Algériens, d'abord comme prête-nom d'Algériens qui essayent de continuer à assurer le commerce, etc. On voit les Marocains arriver, c'est pas rien, parce qu'ils sont aujourd'hui toujours présents. Donc on voit un certain nombre de mouvements comme ça, mais surtout on voit, ce que moi je suis allé observer après, on voit un certain nombre de places marchandes prendre la place de Marseille. Alors quand je dis prendre la place de Marseille, c'est très simple, c'est que quand vous allez en Algérie, en Tunisie, ou même sur Marseille, faire des entretiens, des interviews, les gens vous disent « Non, Marseille, c'est fini, c'est foutu, moi je vais à Istanbul ». Et c'est Istanbul qui devient la grande ville dont tout le monde parle dans ce milieu des affaires, et qui se développe en quelque sorte sur les ruines de Marseille. Alors c'est un peu plus compliqué, parce qu'en réalité, on assiste à un double phénomène de reconcentration sur Istanbul et de dispersion, de pulvérisation en quelque sorte des commerces, puisque on voit des marchés informels s'ouvrir à Tanger, à Elgem en Tunisie, on voit des marchés informels s'ouvrir même en Belgique, en Allemagne. L'une des grandes marchandises qui a été une des grandes marchandises de Belgium dans les années 80, c'est les voitures d'occasion. Aujourd'hui, les voitures d'occasion, après toute une série de péripéties, sont essentiellement concentrées sur un arc qui va de Hambourg à Anvers, avec Bruxelles au milieu, qui est une place marchande extrêmement active. Pour vous donner juste un ordre d'idée, j'ai un étudiant qui fait une thèse sur les relations portuaires entre Anvers et Cotonou, au Bénin. La compagnie Grimaldi Lines, qui est une compagnie italienne, expédie 150 000 véhicules par an sur le port de Cotonou. Le port de Baltimore aux États-Unis, qui est un des grands ports aujourd'hui, expédie 300 000 véhicules par an sur le seul port de Cotonou. Donc il y a eu une sorte de reconcentration des voitures d'occasion sur non seulement sur la Belgique, Anvers, etc., mais aussi sur le Bénin, qui est devenu une sorte de pays garage. En Afrique, on dit ça, on dit le Bénin, c'est un pays garage, parce que le Bénin est un tout petit pays, à côté d'un grand pays qui est le Nigeria, et où donc la quasi-totalité des voitures d'occasion d'Afrique débarquent aujourd'hui sur des réseaux qui sont des réseaux commerciaux qu'on a décrits. Voilà, donc premier mouvement, c'est un mouvement en quelque sorte de reconfiguration des places marchandes. Je passe parce que je pourrais en parler beaucoup, mais donc Naples devient à un moment donné une place marchande extrêmement active et très stratégique, y compris parce que un certain nombre d'aconiers, c'est-à-dire de transitaires chinois, choisissent Naples comme lieu d'arrivée des marchandises chinoises. Autre tendance lourde de fond qui travaille tous ces mondes, c'est la manière dont des monopoles se font et se défont. On en parlera un peu à la fin. Voilà. Donc, vraiment, premier mouvement, c'est des recompositions, etc. Istanbul, donc moi j'y vais, puisque on nous dit que c'est là-bas que ça se passe, donc on y va. On se met à travailler là aussi avec des équipes. C'est bien de jamais travailler seul sur ces terrains, notamment Jean-François Pérouse, qui a aujourd'hui écrit pas mal de choses sur Istanbul et sur ce qu'il appelle le hub istanbouliote. Alors Istanbul, c'est assez fascinant parce que vous sortez de Belzunce, qui vous semble être une ville et un quartier de ville extrêmement actif, plein de gens le week-end, etc., et vous débarquez dans une ville de 15 millions d'habitants, où Belzunce est une toute petite timbre-poste sur une grande enveloppe. La grande enveloppe, c'est Istanbul, le timbre-poste, c'est Belzunce. Donc, quelque chose d'assez faramineux. Moi, j'ai mis quasiment 3 mois avant de trouver les Algériens dans Istanbul. Pas parce qu'ils se cachaient, au contraire, les Algériens étaient très visibles, mais parce que Istanbul était tellement grand, les quartiers commerciaux tellement complexes, juxtaposés les uns sur les autres et tout, qu'il m'a fallu 3 mois pour trouver des Algériens dans ces quartiers. La manière dont je les ai trouvés m'a valu d'ailleurs pas mal de soucis avec les Algériens. Je dirai après, je suis en train de me perdre, donc il ne faut pas que je me perde. Donc Istanbul. Pourquoi Istanbul ? Parce que Istanbul, après quelques recompositions, est devenu le grand centre commercial de la Russie post-socialiste, post-soviétique, qui a fait d'Istanbul son grand marché. Alors ça veut dire la Russie, mais ça veut dire aussi l'Ukraine, ça veut dire toutes les républiques socialistes que sont le Kazakhstan, le Turkménistan, Tadjikistan, voilà, les Tadjiks sont très très présents dans le commerce. Donc toutes ces petites républiques, après avoir créé des petits marchés frontaliers, qui étaient les marchés sur lesquels on vendait aussi bien les scories de la décomposition de l'empire socialiste soviétique, c'est-à-dire les uniformes de l'armée, etc., des denrées alimentaires, enfin bon, toute une série de choses, tous ces petits marchés finissent petit à petit. Il y avait des marchés à la frontière polonaise, il y avait des marchés en Allemagne, il y avait des marchés en Hongrie, il y avait des marchés à la frontière turque, Trabzon sur la mer Noire a été un marché, et donc tous ces petits marchés finissent par se reconcentrer sur Istanbul, qui devient la grande ville commerciale, sur lequel là aussi il y a des remontées, comme diraient les historiens, des remontées de flux vers Istanbul, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte, etc., avec des places marchandes au relais. Alep, a été par exemple une grande ville du commerce algérien pendant, justement, quand Marseille commençait un peu à vaciller. Alep était une place marchande secondaire qui faisait bien le relais entre Istanbul et Marseille, justement, et où les Algériens étaient installés dans le bazar d'Alep et vendaient un certain nombre de produits qu'on retrouvait d'ailleurs sur Belmont. Donc Istanbul devient le grand marché. Alors c'est assez étonnant là aussi sur les nappes d'histoire. C'est très étonnant de voir par exemple que la frontière de ceux qui vont sur Istanbul s'arrête à Tlemcen. Pourquoi Tlemcen? Parce que Tlemcen c'est la frontière de l'Empire ottoman. Donc Tlemcen c'est l'ouest algérien, c'est après Oran, c'est là où l'Empire ottoman s'est arrêté, il n'est pas allé au Maroc, et très peu de Marocains par exemple à Istanbul. Donc il y a une sorte en quelque sorte, de l'Empire ottoman qui se reconstitue par le bas, pour le dire comme ça, à travers Istanbul, et y compris du point de vue très phénoménologique des relations d'échange, toute une série de gens qui sont persuadés que précisément ils ont quelque chose ensemble d'une turquicité ou d'une ottomanité qu'ils partagent et qui leur permet de faire du commerce. Et c'est cette espèce de lien faible minimal, de culture minimale de l'ottomanité qui fait les relations commerciales. C'est très concret. Et vous avez par exemple à Istanbul dans les années 90 des Chinois Ouïghours qui sont persuadés de parler turc parce qu'ils ont été colonisés par l'Empire ottoman. Qu'ils sont musulmans, ils sont persuadés de parler turc, alors qu'ils parlent un dialecte que personne ne comprend, enfin, en tout cas à Istanbul, je pense qu'entre eux ils se comprennent, mais les turcs ne les dissuadent pas, on leur dit que oui, ils parlent turc, etc. Donc tout le monde parle turc à Istanbul, donc les Algériens qui parlent arabe, mais un arabe qui n'est pas le dialecte algérien, sont persuadés qu'ils parlent une langue que les Turcs comprennent, et les Turcs ne les dissuadent pas du fait qu'ils les comprennent, etc. Donc on est dans une sorte de... Alors j'insiste là-dessus parce que c'est très intéressant sur les relations économiques. On est dans une sorte de faux-semblant, de mise en scène et de théâtralisation de la proximité culturelle qui est tout sauf ce que précisément à ce moment-là un certain nombre de sociologues américains décrivent sur les relations ethniques, sur l'ethnicité, sur le partage de valeurs communes et tout. Je pense à Bonachiche et d'autres qui ont travaillé sur ce qu'ils appellent les minorités ethniques, et où on s'aperçoit en réalité que cette ethnicité, elle ne tient pas, ou en tout cas qu'elle peut se mettre en scène sous des formes extrêmement théâtralisées de l'appartenance, entre guillemets. Voilà. Donc ça c'est la deuxième chose, on voit sortir Istanbul, mais surtout, ça c'est la troisième chose sur laquelle je reviendrai, on voit apparaître des logiques. Alors dans les bouquins j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Cava et Container, dans l'idée que précisément on passe dans une logique on change en quelque sorte d'échelle économique et qu'on voit apparaître des grands acteurs qui sont des acteurs économiques et qui, précisément, font glisser ce commerce vers du monopole, vers du container ou des choses comme ça. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, vous parlez de la présence chinoise à Belzunce. Je pense, c'est une hypothèse sur laquelle il faut travailler, je pense que les Chinois ont compris que la quasi-totalité des marchandises qui sont produites sur ces marchés, ces petits marchés des affaires dont nous parlons, depuis Château-Rouge, Barbès à Paris, en passant par Istanbul, ces marchandises sont produites en Chine, et que donc ils ont tout intérêt à s'accaparer, à s'approprier ou à être présents sur les marchés dans lesquels ces marchandises sont vendues. Et donc il y a aujourd'hui une sorte de capillarité de la présence chinoise à l'échelle du monde commercial qui s'occupe de ces produits, et donc on voit aujourd'hui des Chinois présents à Alger, à Oran, à Rabat, pas à Rabat mais à Casablanca, à Dakar, etc., qui sont présents aujourd'hui, évidemment à Istanbul, qui sont présents sur tous ces marchés, évidemment à Belzunce aussi, où par des effets qui sont aussi des effets de spéculation immobilière, ils ont pris place sur le marché. Donc Il y a des effets comme ça, en quelque sorte, de monopolisation ou de capitalisation, au sens capitalisme du terme, sur ces marchés. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, sur le fond, sur le fond de la discussion, et une partie des choses que vous avez dit m'oblige à les discuter, à partir du moment où on a commencé à s'apercevoir qu'il y avait là une possibilité d'abord de découvrir des réalités sociales complexes, effervescentes et actives. Dans mon laboratoire, il y a des gens qui travaillent sur un concept que j'aime bien, qui est le concept de bifurcation, c'est-à-dire sur la possibilité que le commerce donne de bifurquer un certain nombre de destins, etc. Bon. Donc, quand on s'est aperçu qu'il y avait là une socialité intéressante, il y avait en gros deux pistes de travail qui ont été suivies par la plupart des gens qui ont travaillé là-dessus. Je dirais trois, mais on va dire deux pistes. Première piste, c'est celle que suit Arius toujours aujourd'hui, je crois. Alors, moi, je l'appelle comme ça. Après, s'il vient, vous en discuterez avec lui. Il dira qu'il n'est peut-être pas d'accord, mais c'est ce que j'appelle une sorte de sociologie ou d'ethnographie de la métisse. Vous savez, la métisse, c'est un concept grec qui concerne... C'est l'intelligence des petits, l'intelligence des dominés et l'intelligence des vaincus. En gros, quand Ulysse ne peut pas flinguer les grandes armées qui viennent conquérir Troie, il envoie une flèche dans le talon d'Achille, voilà, c'est ça la métisse, c'est l'intelligence, la ruse, voilà, je cherchais le mot, c'est pour ça que je bafouillais, la ruse des petits dans leur capacité à retourner un certain nombre de situations dans lesquelles ils sont objectivement dominés. Je pense que tout le travail de Tarius, c'est ça, c'est une sorte d'ethnographie et de démonstration, parfois très forte, de la capacité des petits à ruser avec à la fois les conditions économiques qui sont celles de nos sociétés, mais à ruser aussi avec, en quelque sorte, les conditions sociales qui leur imposent des destins et qui les assignent à des destins très particuliers. Je dirais pourquoi cette perspective me gêne un peu aujourd'hui, mais bon. La deuxième perspective, c'est ce que vous avez ouvert comme champ, c'est... Moi j'ai pas mal travaillé là-dessus, mais je pense aussi aux travaux de Camille Schmoll, qui a beaucoup bossé là-dessus, sur Naples notamment, je pense aux travaux de Pérouse sur Istanbul et tout, la perspective de penser que ces activités informelles, labiles, fragiles et délicates qui concernent l'économie de la migration, le terme économie de la migration est un terme qui a été employé aux États-Unis par pas mal de sociologues dont Ruben Hernandez León, qui a travaillé sur ces questions et qui consiste à dire qu'aujourd'hui, dans la complexité des circulations migratoires, cette complexité génère elle-même une économie qui est l'économie même de la migration. Voilà. Donc, dans cette économie de la migration, produit des effets qui sont des effets urbains et qui sont des effets de places marchandes, de requalification de quartiers, tout ce que vous avez annoncé sur votre séminaire. C'est Piazza Garibaldi à Naples, c'est Porta Palazzo à Turin, le travail qu'avait fait Giovanni Semi sur ces questions, c'est le travail de Pérouse sur Istanbul, donc c'est les travaux qu'on a pu faire sur Belzunce, etc. Il y a quelques travaux qui ont été faits aussi à Paris, sur Barbès, Château-Rouge, il y a des travaux qui ont été faits aussi sur Londres, d'ailleurs, très intéressants, travaux sur Los Angeles, les travaux de Waldinger sur Los Angeles, qui montrent, qui mettent un peu en évidence toute cette capacité qu'a cette économie de la migration, j'emploie le terme volontairement, à requalifier, s'approprier un certain nombre de lieux urbains en déshérence qui sont requalifiés. Voilà. Ma position par rapport à ça, c'est pas du tout de dire non, c'est pas bien de faire ça, etc. Mais je pense que ces deux modes d'approche de nos acteurs, de nos petits acteurs, sont deux manières d'éviter de poser la question de leur statut économique et de se poser la question, en quelque sorte, d'une sociologie ou d'une anthropologie économique de ce qui est fait dans ces mondes-là. Et donc, on est à la fois dans une position de lucidité et de clairvoyance, puisqu'on voit très bien le dynamisme de ces gens et de ces quartiers, mais on ne voit pas, on est en quelque sorte dans une position d'aveuglement sur leur statut et leur position en termes d'acteurs économiques. Et du coup, on ne voit pas un certain nombre d'évolutions, on ne voit pas un certain nombre de drames, avec des guillemets, qui se nouent autour de ces questions, et qui portent sur... j'essaye de le dire de... Je pense, 5 minutes encore, c'est bon ? Bon. Qui portent sur une question qui est quoi ? Qui est, je le dis très simplement, qui est la question du capitalisme. comment ça se fabrique du capitalisme, comment des sociologues ou des anthropologues peuvent avoir quelque chose à dire sur l'évolution de cette machine très bizarre qui est ce système économique et qui a une capacité étonnante à se renouveler, à se régénérer de toutes les crises, de toutes les possibilités et de toutes les entropies dont il est lui-même porteur, baisse tendancielle du taux de profit comprise. Donc on a une machine économique qui est une machine capitaliste qui s'englue petit à petit dans ses fonctionnements et qui renaît à chaque fois. Et une des manières de renaître du capitalisme, c'est un concept moi qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je suis en train de travailler, que je suis allé le chercher dans les soutes de Max Weber. Max Weber dit dans l'éthique protestante, vous connaissez ça, le protestant, l'esprit du capitalisme, voilà. Il dit ce qui m'intéresse, c'est les capitaines d'industrie, c'est ces gens qui ont fait du travail une religion, etc. Je ne m'intéresse pas du tout, et alors là, ouvrez les guillemets, au capitalisme commercial, petit 1, au capitalisme aventurier, petit 2, et au capitalisme des parias. J'ai sauté là-dessus comme une mouche sur du miel, on va dire capitalisme des parias, ça c'est un concept formidable parce que ça décrit exactement ce qu'on est en train de décrire. Quand on travaille sur ces petits, etc. Voilà. Alors j'ai un peu réfléchi à ça. On a fait pendant un an à Paris avec un certain nombre de gens, on a fait un séminaire sur cette question, capitalisme parias, très intéressant. Parce que ça permet précisément de voir quoi ? Ça permet de voir que, au fond, ces gens sur lesquels nous avons travaillé, tous ces petits, comme dirait Tarius, ils s'inscrivent. Alors, il y a des manières différentes, évidemment, de s'inscrire dans l'histoire économique. Il y en a un certain nombre qui sont pulvérisés et évacués par la machine économique. Mais on voit deux ou trois évolutions se faire jour dans la manière même dont ils deviennent ou pas des acteurs économiques. Je donne un exemple volontairement un peu provocateur, mais sur lequel on a beaucoup réfléchi, qui était l'exemple de ces femmes ukrainiennes, moi que j'avais rencontrées à Istanbul dans les années 90. Donc c'était les femmes ukrainiennes, qui étaient pour l'essentiel des institutrices, hôtesses de l'air, qu'est-ce qu'il y avait encore, infirmières, voilà. Les infirmières étaient assez nombreuses. Donc il y avait été, qui de fait, puisque l'État socialiste s'était décomposé, avait perdu leur emploi, et qui venaient sur Istanbul faire du commerce. Alors faire du commerce, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles venaient sur des visas de 4 jours, parce que c'était les visas les moins chers, le visa turc s'achetait à l'époque, aujourd'hui aussi. Donc elles venaient sur des visas de 4 jours, pendant 3 jours elles se prostituaient dans des hôtels qui étaient des hôtels tenus généralement par des Tchétchènes, il y avait des Tadjiks, des Tchétchènes, etc. En tout cas des gens avec qui elles étaient en relation, au moins elles avaient quelque chose d'une relation culturelle sur la présence socialiste, etc. Donc 3 jours elles se prostituaient, 4e jour elles allaient dans le Belzunce à l'Aleli, sur le quartier des grossistes, et elles achetaient des tissus, des fringues, etc. Et elles repartaient en Ukraine, et le reste de la semaine, elles vendaient sur les marchés ukrainiens ce qu'elles avaient acheté, et elles étaient comme ça sur des cycles qui étaient à peu près mensuels pendant. Voilà. J'ai revu trois de ces femmes. La dernière fois que je suis allé à Istanbul, c'était il y a longtemps, c'est en 2002, et j'en avais revu certaines. On avait trois cas de figure. Premier cas de figure, une de ces femmes était devenue une organisatrice de ce qui s'appelle les cargos à Istanbul, c'est-à-dire qu'elle était organisatrice des circuits, des circulations, des changes et tout ça. Et elle était devenue un personnage assez important dans ce commerce transnational russe sur Istanbul, où elle était une des figures assez importantes de ce truc. Une deuxième femme avait épousé un commerçant turc, un commerçant Mardin. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, Mardin, c'est une ville ville kurde du sud de la Turquie, qui est frontalière avec la Syrie, qui est une ville dans laquelle une ville musulmane, dans laquelle les gens parlent arabe, Et les Mardinli ont été une grande partie de ceux qui ont organisé le commerce arabe sur Istanbul, puisque l'essentiel de leurs clients étaient algériens, tunisiens, libyens, égyptiens, etc. Voilà. Donc elle avait épousé un commerçant mardine, et avec lui, ce commerçant mardine a pénétré le marché roumain, ukrainien, russe, alors qu'il était spécialisé sur le marché arabe. On pourrait imaginer d'ailleurs des commerçants qui font la même. Et la troisième avait monté un grand commerce à Kiev, dans sa ville d'origine. Elle avait monté un grand commerce, elle avait acheté restaurants, bars, etc. Voilà. Pourquoi je décris ça? Je dis ça parce qu'une des hypothèses qu'on peut faire, c'est que dans ces cycles commerciaux, cette intelligence des petits, comme dit Darius, s'opère quelque chose qui est la fabrication d'une classe moyenne, mais d'une classe moyenne à compte d'auteur. C'est-à-dire que, si on le dit très très vite, nous, et certaines générations, en tout cas, y compris certaines générations de sociologues, nous avons vécu dans l'illusion que les classes moyennes la promotion sociale se fabriquait par le diplôme, par l'acquisition d'un certain nombre de compétences validées par des diplômes, l'école, etc. Donc les fils d'ouvriers devenaient instituteurs, les fils d'instituteurs devenaient professeurs, et les fils de professeurs devenaient ministres. Encore que quand on arrive au bout, il y a peu de monde, mais bon, peu importe. Donc on a vécu dans cette sorte de fiction politique, je le dis comme ça, que les classes moyennes étaient portées par la promotion sociale, garantie en quelque sorte par l'État, les institutions publiques, l'école, etc. Cette machine à fabriquer des classes moyennes est probablement rentrée, sinon en faillite, du moins en crise à partir des années 75, c'est à peu près là qu'il faut le situer. Et donc on voit apparaître des logiques de fabrication, de production de classes moyennes, virgule, à compte d'auteur, c'est-à-dire des gens qui eux-mêmes assurent par leurs propres moyens quelque chose de promotion sociale que l'État ne leur assure plus. Voilà. Du coup, là, on est dans une logique économique, on est dans une logique de production de groupes sociaux, etc. On est un peu en dehors de cette infra-psychologisation de l'intelligence des petits. On est dans, en quelque sorte, de la reconversion du capital social, comme dirait Bourdieu, si on l'assume comme tel, mais une reconversion qui ne se fait plus de manière garantie, et qui se fait précisément en remobilisant toutes les relations sociales qu'on peut mobiliser, qu'elles soient ethniques ou autres. Deuxième trend intéressant, c'est qu'on voit précisément apparaître des grands promoteurs, des grands capitalistes qui prennent en charge un certain nombre de choses, qui en quelque sorte recentralisent tous ces petits réseaux commerciaux et qui en font des grandes rivières. Aujourd'hui, l'essentiel de ces grandes rivières commerciales sont sur la partie asiatique qui produit et sont ramifiées à la production. Mais par exemple, dès les années 90, on voit apparaître en Algérie des gens qui font du container, pour le dire très simplement, qui sont pour la plupart des généraux, qui organisent des convois de jeunes Algériens désœuvrés, à qui ils donnent une certaine somme, qui partent sur Istanbul, qui s'approvisionnent et qui ramènent des produits par la douane, etc. On est en train de travailler là-dessus avec mon camarade Eflen Sandoval, qui est à Marseille en résidence à Limera, sur le grand commerce de la fripe. Alors on a travaillé un peu sur la frontière mexicaine et sur le Texas. Vous avez aujourd'hui au Texas, à Laredo, à McAllen, vous avez des énormes entrepôts qui centralisent la quasi-totalité de la fripe américaine, avec deux grandes voies, celle qui vient de Los Angeles d'un côté, celle qui vient de New York de l'autre. Tout ça est centralisé sur Laredo et McAllen. Vous avez d'énormes entrepôts, c'est vraiment gigantesque, et des gens qui trient les fringues, qui les recyclent, etc. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que, si on le dit de façon hypothétique, une des évolutions de l'économie aujourd'hui, c'est que, en quelque sorte, l'entrepôt tient, dans le capitalisme d'aujourd'hui, la place que tenait l'usine au XIXe siècle. C'est-à-dire que c'est à la fois le lieu stratégique et c'est le lieu d'où s'organise l'activité commerciale. Regardez des entreprises comme Amazon, mais regardez même Airbus. C'est très intéressant de voir à quel point Airbus, ce n'est pas du tout une fabrication d'avions, c'est un assemblage de choses qui sont fabriquées dans différents points. Et donc les logiques d'assemblage, de circulation, de stockage deviennent absolument stratégiques. Mais mine de rien, je ne l'ai pas décrit de façon très précise et très minutieuse, mais tout ce que nous avons vu sur Belzunce, sur les réseaux commerciaux, etc., sont des activités qui sont aujourd'hui au cœur du capitalisme et de sa transformation, qui sont les activités de stockage, de circulation, de connexion, etc. Et donc, nos petits acteurs, quand ils deviennent grands, deviennent tout d'un coup des acteurs qui sont absolument au cœur de la transformation de la machine économique, etc., et nous permettent de voir tout simplement que, justement, on est en train de passer, en gros, d'un capitalisme industriel à un capitalisme d'entrepôt, si on le dit comme ça. Et c'est très intéressant de voir comment ces acteurs en ont été, ou en sont encore aujourd'hui, les promoteurs. La troisième dimension, qui est une dimension très intéressante, c'est que on s'aperçoit, je finirai là-dessus, je vous rassure, on s'aperçoit qu'on est dans un grand monde qui est celui de l'informel. Alors c'est très difficile de définir l'informel. L'informel, c'est un concept très emmerdant. On le sort par la porte, il revient par la fenêtre, parce que chaque fois qu'on le sort, on ne sait plus quoi dire à la place, donc on va le rechercher parce qu'il nous a manqué dans la description des choses qu'on fait. L'informel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à la fois qu'on est en dehors des cadres institutionnels de l'économie, c'est-à-dire qu'en gros, on est en dehors, ça c'est la définition que donnent Portes, Castells, etc., on est en dehors des cadres à partir de lesquels, desquels l'État encadre, au sens le plus photo du terme, au plus au sens le plus goffmanien du terme, frame. Les cadres que l'État met autour de l'économie, l'informel, on est en dehors de ces cadres. Ça veut dire qu'on est en dehors des règles de contrat, on est en dehors des règles de diplôme, on est en dehors des règles hiérarchiques, de compétences, etc. On est en dehors des cadres à partir duquel l'État encadre l'économie. Ça, c'est l'informel, au sens le plus plat du terme. Je pense qu'il faut rajouter une dimension, c'est que l'informel, on est aussi dans des relations qui sont non contractuelles, c'est-à-dire qui sont des relations personnalisées, des relations, si on le dit là aussi avec une approche goffmanienne, on est dans de l'interaction, on n'est pas dans de l'institution. Je me souviens de cette phrase parce qu'elle m'avait particulièrement marqué. Je demandais un jour à un commerçant algérien avec qui j'étais en relation très régulière, etc., qui était mon informateur privilégié, on va dire. J'aime pas trop ce terme, mais bon, parce que je pense que j'ai été aussi son informateur privilégié. Je lui disais, c'est quoi la confiance? Il me disait, la confiance, il n'y a pas de définition, la confiance, c'est jusqu'à la prochaine fois. Et qu'est-ce que ça veut dire, confiance jusqu'à la prochaine fois? Ben, ça veut dire que chaque relation commerciale produit son capital de confiance qui ne va pas au-delà de la deuxième transaction après la première. Première transaction, je te fais confiance, puisqu'on l'a fait, donc on va pouvoir en faire une deuxième, mais si la deuxième ne se passe pas, la confiance est ramenée, le compteur confiance est ramené à zéro, etc. Voilà. Quand je dis qu'on est dans des économies relationnelles, c'est-à-dire que les relations personnalisées en face à face, les relations, les interactions au sens le plus goffmanien du terme, organise l'économie, c'est ça que je veux dire. Et c'est là où justement il y a l'illusion sur l'ethnicité. Parce que c'est pas parce qu'elles sont personnalisées, c'est pas parce que c'est des relations de face à face, c'est qu'elles sont forcément dominées par des logiques ethniques, par des logiques culturelles, d'appartenance, etc. Ça, encore une fois, ça peut très bien se satisfaire d'un certain théâtre. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des copains, nous sommes tous des amis, etc. etc. Donc, voilà. Ça, c'est les deux dimensions de ce que je peux appeler l'informel. Il y a un autre pan de l'informel, il y a une frontière, qui est une frontière à la fois extrêmement radicale, mais en même temps très difficile à voir, c'est la différence entre l'informel et le criminel. Or, la différence, c'est quoi? C'est la violence. Dans l'informel, il n'y a pas de violence. On peut se péter la gueule de temps en temps, on peut se dire des mots extrêmement désagréables et se traiter de tous les mots, on peut se faire arnaquer, on peut se faire plumer, mais on ne va pas se tuer ou, surtout, on ne va pas instaurer la violence comme une menace, une sorte d'institution qui permet de régler l'ordinaire des relations, etc. La violence n'est pas présente dans l'informalité. Dans le criminel, elle y est. C'est parce que je m'approprie une part du monopole d'État de la violence que les groupes criminels mafieux en Italie ou ailleurs sont capables d'organiser un certain nombre de grands commerces transnationaux. C'est parce que les cartels mexicains s'approprient une part de la violence d'État qu'ils sont capables aujourd'hui d'organiser tout le passage de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, etc. Donc c'est la violence qui est au cœur du capital criminel. Et c'est là où justement il y a une troisième évolution, c'est qu'on voit un certain nombre d'acteurs qui basculent dans le criminel et qui, en quelque sorte, capitalisent leur science de l'informalité sur des réseaux, sur des activités qui sont des activités criminelles et qu'on voit se déployer à la périphérie de ce grand marché informel. Voilà. Je m'arrête là-dessus, juste pour dire donc ce que je disais au début, je pense que Belzo, c'est fini. Que pour des raisons qui sont des raisons à la fois liées à l'évolution même du commerce, liées à l'évolution de la ville, mais liées aussi à... alors je ne sais pas s'il faut dire l'incapacité, parce que c'est un peu qualifiant, ou s'il faut simplement dire la propension, des notabilités locales à ne pas considérer ces activités sur Belzunce comme des activités viables, légitimes et qu'on peut mettre en scène dans la ville aujourd'hui. Toujours est-il que le grand commerce, le grand marché de Belzunce a été démantelé et qu'il ne faut pas prendre les quelques témoins archéologiques aujourd'hui de ce marché. Y compris l'existence d'un commerce ethnique, puisqu'il y a du commerce ethnique sur Noailles, sur Belzunce, etc., il ne faut pas le prendre pour ce qu'il n'est plus, c'est-à-dire pour de l'activité transnationale, etc. Cette activité s'est déplacée. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de savoir pourquoi, quelle est cette sorte de conflit social entre les notabilités marseillaises et leur incapacité à prendre... en quelque sorte à prendre pied, à prendre profit sur ces activités commerciales et à les développer. Je rappelle qu'à Naples, ça s'est fait. Le développement des grands mercatones qui sont au pied du Vésuve ont été pas du tout des développements informels, mais ont été accompagnés par des logiques institutionnelles. Istanbul est un exemple magnifique de transformation du port, exactement ce qui s'est passé sur Euromed, mais intégrant complètement la logique du marché russe, ukrainien, etc., dans le réaménagement des espaces portuaires. Donc il est possible, politiquement, économiquement, il est possible que ces commerces soient intégrés en tant qu'acteurs dans les processus d'aménagement, y compris de gentrification. Il y a des endroits où ce n'est pas possible. Et je pense qu'aujourd'hui, la question sociologique, elle est plus de comprendre cette possibilité ou cette non-possibilité de embrayage des notabilités locales sur ces commerces. Je trouve que Belzunce, c'est un beau terrain pour ça, mais ne le prenez pas pour ce qu'il n'est plus. Voilà, pardon si j'étais un peu long.
Non, j'étais un peu long.
Je suis désolé.
Merci beaucoup.
C'est quand on improvise, pardon, ça laisse aller.
Excusez-moi. Merci beaucoup. Voilà.